Eh bien, nous voulons partager la parole du Seigneur. J'aimerais vous lire pour introduire cette parole un verset du livre d'Ésaïe au chapitre 44, verset 2. Alors, je l'avais choisi avant qu'un certain Emmanuel ne naisse cette semaine, mais ça fait écho, un double écho dans ma lecture. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Celui qui t'a fait, qui t'a façonné dès ta naissance, celui qui est ton soutien, sois sans crainte, mon serviteur Jacob que j'ai choisi. Bon, les traductions peuvent varier d'une Bible à l'autre, mais ce matin, j'avais envie de partager avec vous quelques pensées sur ce qui nous permet de tenir debout dans notre vie. Et j'ai choisi de retenir trois piliers essentiels dans notre vie d'homme ou de femme. À savoir que pour tenir bien et stable, il faut au moins ces trois piliers. On pourra en trouver d'autres, certainement. Mais j'ai choisi ces trois-là qui me semblent essentiels. Le premier pilier, c'est savoir que l'on est désiré. C'est important de savoir qu'on est désiré. Savoir que l'on est aimé. C'est important de savoir que l'on est aimé. Et savoir qu'on a de la valeur. C'est très important de savoir qu'on a de la valeur. Ces trois piliers, j'ai envie de dire que pour un homme et une femme, afin qu'ils se tiennent debout et que leur vie ne soit pas bancale, ces trois piliers intérieurs sont indispensables. Et trois, c'est un chiffre intéressant. Vous savez que quand on regarde l'artisanat dans les alpages, dans la montagne, lorsqu'on fabrique des tabourets, on ne fait pas des tabourets d'entrée de jeu à quatre pieds. Vous savez pourquoi ? On fait des tabourets à trois pieds ? Non. Parce qu'avec trois pieds, c'est jamais bancal. Vous avez trois pieds, les trois pieds toucheront le sol. Si vous avez quatre pieds, il faut être précis. Il faut que ça soit taillé au millimètre. Et à ce moment-là, la chaise tient bien. Mais avec trois pieds, c'est jamais bancal. Et j'ai envie de dire, j'ai utilisé cette image-là de trois piliers essentiels dans notre vie intérieure. Ce premier pilier, c'est avoir la certitude que Dieu a voulu que j'existe. Dieu a voulu que j'existe. Je ne suis pas un hasard. Il y a dans la pensée de Dieu la volonté, le désir que je sois. J'ai été désiré par Dieu. On vient de lire ce texte du livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est-à-dire que dès le commencement, je ne suis pas le fruit d'un hasard biologique. Je suis le fruit de la pensée de Dieu. J'aime beaucoup, quand il y a 40 ans, un de mes professeurs de théologie a été questionné par sa petite fille qui s'appelait Christiane. Et elle s'adressait à Théo, son papa, et elle lui disait, « Mais papa, avant que je naisse, j'étais où ?» C'est bien des questions d'enfant, ça. « Avant que je naisse, j'étais où ?» Et Théo lui a dit cette phrase qui m'est restée pour la vie. Il a regardé sa petite fille, Christiane, et lui a dit « Avant que tu naisses, tu étais dans la pensée de Dieu. » Waouh ! Est-ce que tu crois qu'avant que tu naisses, comme le dit le prophète Ésaïe, que ce Dieu qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, celui qui te choisit, t'avait en tant qu'être individuel dans sa pensée de toute éternité. C'est un mystère. Un mystère à la fois d'amour, mais un mystère de ce Dieu, de ce Père qui dit « Je t'avais dans ma tête, pour ne pas dire dans mon cœur, dès le commencement des temps. » Vous savez que le sentiment de ne pas être désiré, voulu, eh bien, ça finit par construire une identité qui repose sur le rejet et l'abandon. Avoir le sentiment d'être rejeté, abandonné. Et dans la Bible, on trouve des êtres, des personnages, pour ne pas dire des personnalités, qui ont vécu cela dans leur enfance et pour lesquels leur vision de Dieu, leur vision même d'eux-mêmes, leur vision des autres est extrêmement faussée. Ne pas savoir ou ne pas avoir cette certitude, cette foi, Dieu a voulu que j'existe, c'est avoir une faille sur laquelle il est difficile de vivre et aussi de construire sa vie. L'amour de Dieu pour moi est un amour éternel et il m'a désiré. Il y a deux hommes dans la Bible que j'ai souvent cités qui sont des exemples d'hommes qui n'ont pas été forcément désirés et qui l'ont vécu de manière très négative. Ces deux hommes que je vais citer, c'est, vous les connaissez, c'est Moïse et David. Deux hommes qui ont vécu cela de manière négative, puis deux hommes qui ont vécu le fait d'être désirés de manière très positive. C'est Samuel et Jean-Baptiste. Ces deux-là ont été extrêmement désirés. Et on voit bien que dans leur parcours de vie, entre ces quatre hommes, les deux qui l'ont vécu de manière négative et les deux qui ont vécu cela de manière positive, leur trajectoire de vie, leur relation, leur manière de se comporter avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres, ça a été très différent. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Rapidement, Pharaon, voyant que les Juifs commençaient à envahir le pays tout en étant dans un état de servitude et commençaient à avoir du pouvoir sur la terre d'Égypte, eh bien, il a décrété qu'il fallait jeter au fleuve tous les garçons qui naîtraient et de ne laisser vivre que les filles. Et lorsque Jochebed, la maman de Moïse, s'est vue enceinte pour la troisième fois, elle avait déjà un fils qui s'appelait Aaron, et elle avait une fille qui s'appelait Myriam. Je me demande quelles sont les pensées qu'elle a eues, qui l'ont habitée. Elle a dû lever les yeux au ciel en se disant, Seigneur, fais que ce soit une fille. Fais que ce soit une fille, pour ne pas que la mort vienne toucher mon enfant. Et dans certaines familles, certaines cultures locales, on sait qu'il y a des enfants qui portent le nom d'un parent proche qui est décédé, voire d'un enfant de la famille qui est parti avant leur naissance. Et ils servent de remplaçant. Ils servent de souvenir de celui qui a disparu. Ça m'est arrivé dans mon travail d'avoir une patiente qui était dans mon bureau et qui m'a dit cela. Avant ma naissance, ma maman a eu une petite fille et puis cette petite fille est décédée. Elle a volontairement voulu une autre petite fille et elle m'a donné son prénom. Et quand je suis né, j'ai pris la place de cet enfant qui était parti. Elle me regardait avec les larmes dans les yeux en disant « Je n'ai jamais existé. C'est l'autre qui a existé pour ma mère. Mais moi, je n'ai jamais existé. » Elle a basculé bien des années plus tard dans les addictions, dans la souffrance, mais la faille d'origine, elle était là. Je n'ai pas été désiré. Alors peut-être que toi aussi, tu as pu avoir cette faille-là dans ta vie. Tu peux être quelqu'un qui a le sentiment de ne pas avoir été désiré. désiré au niveau humain, désiré par Dieu. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été voulu comme les autres? Eh bien, Dieu te dit, celui qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, il t'a choisi, il t'a voulu. Rencontrer Dieu, ce n'est pas simplement dans le salut, être libéré de ses péchés, que nos fautes soient effacées pour que la relation revienne. C'est un plan beaucoup plus large où Dieu dit « Je veux reconstruire en toi l'image qui est la tienne, la personnalité qui est la tienne. Je veux guérir toutes les blessures intérieures qui se trouvent en toi, les peurs, les doutes, les craintes qui t'habitent. Afin que tu sois certain que ton Dieu t'aime, que ton Père te tient entre ses mains d'une manière véritable. Je t'aime d'un amour éternel. Alors Moïse n'a pas été désiré en tant que garçon, il a été caché. Et sa mère, certainement, a dû le mettre dans un endroit de la maison où il ne pourrait pas être entendu par les voisins, par les autorités égyptiennes, etc. Il a dû être empêché, et ça c'est peut-être important. Certainement que Moïse, on l'a empêché de crier ou de pleurer. Et dans sa vie, ça a été quelque chose de déterminant. Rappelez-vous, je ne sais pas parler quand Dieu l'appelle à être son guide. Je ne peux pas parler. Non, on l'a empêché de parler dès son enfance, dès sa naissance. Et puis sa sœur, envoyée par sa mère, l'a déposé dans un panier sur le fleuve, le Nil, et puis il a été recueilli par une étrangère. Quelqu'un disait, il a été transculturé. Il a reçu une culture égyptienne, lui qui était un enfant hébreu. Un enfant d'hébreu. Vous savez, je crois que quand nous sommes séparés de Dieu, nous sommes transculturés. C'est-à-dire que nous sommes dans l'acquisition de la culture de ce monde, alors que la culture originale à laquelle nous sommes destinés, ce n'est pas la culture taïwanaise, au grand désespoir de mes chouettes. Ou bretonne, ou galloise. Non, notre culture originelle, c'est la culture du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à retrouver cette culture-là par le miracle du salut en Jésus-Christ. Moïse a été transculturé, déplacé dans sa culture. C'est ce qui l'a rendu tellement agressif, tellement violent au point de tuer un Égyptien, parce que c'était un homme qui n'était pas guéri et qui ne savait pas ce que Dieu voulait de lui et pour lui. Un homme qui ne savait pas que Dieu voulait qu'il existe, qu'il avait son regard sur lui, sa main sur sa vie. Qui suis-je? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et vous savez, il y a des êtres humains, y compris dans l'Église, qui pourront être sauvés sans vouloir retrouver ce que Dieu veut leur faire découvrir de leur identité, sans se laisser guérir, sans se laisser transformer. Il y a certains qui disent que le passé de Moïse, cette souffrance, cette déchirure, cette faille, explique ou permet de comprendre pourquoi il bégayait. Vous savez qu'en hébreu, dans le livre de l'Exode, il est dit que la traduction, parfois, c'est que Moïse avait la langue embarrassée. En fait, le mot hébreu est un mot très... je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais que mon professeur d'hébreu me disait c'est un mot qui... quand on le dit, on a l'impression de bégayer parce que c'est des syllabes qui se répètent. Il bégayait, il avait la langue embarrassée. Chouraki dit, dans sa traduction, il était lourd de bouche et lourd de langue. on sait sur acquis, hein, lourd de bouche et lourd de langue. C'est-à-dire qu'il n'était pas, il n'était pas aisé dans la communication. Il y a un midrash, vous savez, le midrash, c'est les petites histoires que les juifs se racontent pour expliquer des choses de la Bible. Et il y a un midrash qui est très connu en Israël qui dit que quand Moïse était enfant, il a été recueilli et protégé par Bithya, la fille de Pharaon. Il s'empare un jour, c'est une histoire, hein, c'est pas la Bible, mais il s'empare un jour de la couronne de Pharaon. Et en le voyant s'en coiffer, les conseillers de Pharaon, outrés de ce toupet-là, proclament qu'il doit être mis à mort. Un ange, sous l'habit d'un courtisan, propose alors de placer deux assiettes devant ce Moïse impertinent. L'une contenant de l'or et des pierres précieuses, et l'autre des charbons ardents. Si Moïse dirige sa main vers les charbons ardents, c'est donc qu'il ne nourrit aucun dessein de lèse-majesté. Mais, comme tous les enfants, simplement, il est attiré par l'éclat des objets brillants. Malheur ! Moïse dirige sa main vers les pierres précieuses, mais une fois encore, l'ange le pousse brutalement, un coup d'épaule, et la petite main de l'enfant s'empare des charbons ardents, les porte à la bouche et brûle sa langue. Et c'est comme ça, dans le Midrash, en Israël, qu'on dit qu'il bégait et que Moïse est désormais lourd de bouche et lourd de langue. C'est un Midrash, ça vaut ce que ça vaut. C'est une manière de dire, voilà, il y a quelque chose du passé qui fait qu'il bégait. Ouais. La personnalité de Moïse est indubitablement marquée par le sentiment d'avoir été abandonné, délaissé. On dit oui, mais quand même, quelle chance ! Il part d'une maison d'esclaves et de serviteurs et il arrive dans la cour de Pharaon. Quelle que soit la richesse et le confort, il a perdu l'essentiel, le lien maternel. On ne parle jamais du père de Moïse, on ne parle que de sa mère, hein, mais certainement le lien paternel, le lien avec ses frères et sœurs. Et on comprend là que cet acte d'amour, et vous savez, il y a des tas d'actes d'amour qui finissent par avoir des effets préjudiciables. Mais cet acte d'amour, cette volonté de sauver de sa mère, font qu'il va se retrouver déchiré. Comment Moïse a-t-il vécu cette perte d'origine ? Est-ce qu'il l'a seulement comprise ? Est-ce que ça a été verbalisé par la fille de Pharaon ou bien est-ce que ça a fait l'objet d'un secret de famille ? Il y a tellement de choses dans nos familles qui sont secrètes que les parents ne disent pas, pour le bien de l'enfant, bien évidemment. En tant qu'enfant, est-ce que vous n'avez pas été confronté à des secrets, des choses cachées, comme Moïse, et qui aujourd'hui font qu'il y a des blessures, des failles ? Il a été sauvé par sa mère biologique avec une princesse qu'il a adoptée. On pourrait estimer qu'il a eu de la chance. Mais il lui manquait cela, savoir qu'il était désiré par sa mère et que son appartenance à sa mère, ce lien, était indéfectible. Et parfois, ça peut nous faire penser que nous ne sommes pas non plus désirés de Dieu. Moi, j'ai eu un gros problème. Je n'ai pas connu mon père biologique, pour des raisons particulières. Et j'ai été adopté par un homme, quand j'avais 4-5 ans, qui est devenu mon père. Et j'en aurais changé pour rien au monde. C'est un homme qui a été plus que mon père. Quelqu'un que j'ai aimé profondément. Mais ça m'a rendu compliqué le fait d'appeler Dieu mon père. Apprends-nous à prier, Seigneur. Et quand je lisais le Notre Père, Notre Père, je disais, ben, Notre Père, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un Père, vraiment, hein, celui qui t'engendre, qui t'aime, qui te soutient. Est-ce que parfois, notre vision de Dieu en tant que Père est altérée par ce que nous avons vécu, par les failles qui nous habitent ? David, est aussi un homme, on le voit souvent comme un modèle de foi, un homme sûr de lui, de son Dieu. Il a 7 frères, qui, lui, il est le plus petit. Le prophète Samuel est envoyé pour choisir le successeur du roi Saül. Et quand il est envoyé par Dieu, Dieu l'envoie dans la famille d'Isaïe avec ses 8 enfants. Nous aussi, on était 8 enfants dans ma famille. Mais moi, je n'étais pas le petit dernier, j'étais le grand premier. Alors le petit dernier, je peux vous assurer, il était chouchouté. Le grand premier, quand il arrivait, il faisait les travaux, il était plus grand, il assumait, etc. Hein, je ne sais pas s'il y a des aînés parmi nous. Mais David, c'était le petit dernier. Et quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il y a une parole qu'il prononce, il dit « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Et Samuel fit sanctifier Isaïe et ses fils, on lit ça dans 1 Samuel 16, et les invite à un sacrifice, sauf qu'il n'y a que 7 fils, Isaïe et Samuel. David a été oublié. Il est en train de travailler dans les champs avec les moutons, les brebis, et le petit compte pour du beurre. Alors peut-être que pour nous, on a pu se sentir oublié aussi dans notre vie, de compter pour du beurre. Et là, on pourrait se dire, tiens, est-ce que ça a altéré la vision de lui-même de ne pas être désiré, de ne pas être choisi pour David? Eh bien, on le voit dans 1 Samuel 24, quand il y a le roi Saül qui le poursuit, David crie du haut de la montagne, « Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce ?» Waouh! Ça, c'est de l'estime de soi. Non? Et combien parfois le fait d'être habité par ce sentiment de ne pas être choisi, de ne pas être voulu, a pu déposer en nous ce sentiment d'absence, d'une estime de soi fragilisée. David est dans cette position. Et plus loin, il dira au chapitre 26 de 1 Samuel, « Le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. » Oui. C'est le même homme qui, dans les psaumes, dira, « Je te remercie, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est pas une guérison définitive, parce qu'il retombera dans son regard sur lui-même. Mais il y a des moments où il prend conscience de ce qu'il est, de ce que Dieu l'a voulu, l'a désiré. Et puis, il y a des hommes qui ont la chance. Moi, je dis souvent, dans les modèles bibliques, il y en a qui sont comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont à l'inverse. Vous avez quelqu'un comme Samuel, justement, celui qui est allé chercher David. Je dis souvent, ces hommes-là, ils avaient un deuxième prénom, Samuel et Jean-Baptiste. Ils s'appelaient Désiré. Ah ouais. Il y en a, on sent bien, c'est des chouchous. Ils sont désirés, ils sont voulus, ils sont entourés, chouchoutés. Je ne sais pas si les enfants là ont ce sentiment-là, dans la famille. Est-ce que je suis le chouchou de ma maman? Est-ce que je suis le chouchou de mon papa? Ah ben Samuel, c'était le cas. La mère de Samuel et de Jean-Baptiste était stérile. Elles ont prié, crié à Dieu pour avoir un enfant. Leurs fils ont été des miracles, le fruit du désir et de la pensée de Dieu. Il y en a d'autres, hein. Isaac, Samson, c'est pareil. Le fruit de la rencontre entre le désir et la pensée de Dieu. Et vous savez, j'ai envie de dire qu'il y a des naissances, y compris en nous-mêmes, qui sont le fruit de notre désir et de la pensée de Dieu. Et à ce moment-là, ce que nous sommes peut réellement naître, venir au jour. Ne croyez pas qu'il y a des naissances ou des choses à engendrer en nous quand nos désirs crient à Dieu et qu'il rencontre ceux ou ses désirs, la pensée de Dieu pour nous. Ça a été le cas pour les mères de Samuel et Jean-Baptiste. Le psaume 139, verset 13, dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. David ! Mais attends, David, moi je comprends pas. T'es un chien, mort, une puce, ou t'es une créature merveilleuse ? Il y a des moments où le Saint-Esprit en lui, la relation avec son Dieu, fait dire, mais non, ce que je vois de moi n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est le regard que Dieu a sur moi. Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Moi, personne n'a constaté, à mon grand désespoir, que ça fait presque un mois que je me suis rasé. Pas une seule personne m'a dit. Personne. Même pas mes enfants. Je les vois, ils viennent à la maison. Personne. Mais maintenant que je me rase 2 à 3 fois par semaine, je regarde la glace. Et vous savez quel est le passage de la Bible que je lis, que je me récite devant la glace? Avant, je ne le faisais pas, je ne me rasais pas. Je me regarde dans la glace et je dis, ah, je suis une créature merveilleuse. Il m'est arrivé il y a quelques années d'avoir en face de moi dans mon bureau une femme qui était vraiment dans une position, une attitude, un regard sur elle-même de dédain, sans valeur, le sentiment qu'elle n'avait rien, qu'elle n'était pas voulue, désirée, ni par ceux qui l'entouraient, ni par Dieu lui-même. Et moi, je lui ai conseillé, je lui ai dit, écoutez, après, on a eu un entretien pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure, et puis je lui ai dit, écoutez, il y a un outil merveilleux dans votre chambre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans votre chambre, toutes les chambres sont pareilles, on l'a installé il y a longtemps, et il y a, bien souvent, les patientes ne l'utilisent pas, cet outil-là. En tout cas, pas de manière efficace. Elle me dit, ah bon ? Je lui ai dit, oui, ça, pour l'estime de soi, c'est génial. Elle me dit, ah bon, oui, vous montez dans votre chambre. Les chambres font, oh, je crois, moins de 9 mètres carrés, hein, à peu près. Donc, pour trouver ou ne pas voir un outil qui se trouve dans 9 mètres carrés, hein, je dis, vous ouvrez la porte. Une fois que vous êtes dans la porte, vous traversez la chambre. Bon, elle fait 4 mètres. Hein. Une fois que vous êtes au bout, vous êtes dans une chambre de droite ou de gauche ? Elle me dit, une chambre de droite. Bon, alors quand vous êtes au bout, face à la fenêtre, vous tournez. Faites un quart de tour. Ah bon ? Et là, vous allez voir l'outil qu'on a installé. Elle me dit, mais il n'y a rien en face. Réfléchissez. Elle me dit, ben non, hein, je vends, non, je fais un quart de tour. Non, rien. Elle me dit, ah, bah, si, il y a un miroir. Ben, on l'a installé exprès, c'est un outil merveilleux. Il faut le conjuguer avec la parole de Dieu. Quand vous êtes face à ce miroir, appuyez-vous sur cette parole. Merci Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je suis. Si je m'appuie sur cette parole qui vient de Dieu, alors cette parole descend en moi et guérit tout ce qui a abîmé mon regard sur moi-même. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Il y a un lien qui est étonnant entre ce pilier, avoir la certitude que Dieu a voulu que j'existe, que j'ai été désiré par lui, et le deuxième pilier qui est ce pilier qui dit « Je suis aimé ». Non seulement je suis désiré, mais je suis aimé. Être désiré, c'est bien. Moi, quand j'étais enfant, j'étais typique asiatique, vietnamien, et dans les cours d'école, quand on faisait du sport et que le prof désignait 2 capitaines pour faire une partie de foot, les 2 capitaines choisissaient, bah, toi tu viens dans mon équipe, toi tu viens. Moi j'étais toujours le dernier ou l'avant-dernier à être choisi. Quand on est choisi, c'est bien. Hein ? Moi je ressortais de là avec une expérience assez négative. Hein. Je me disais, bon, bah, finalement je suis le dernier choix. Et ça me blessait. Mais quand on est choisi, c'est bien. Ça fait du bien. Mais il y a encore quelque chose qui fait encore mieux. C'est quand on est choisi parce qu'on est aimé. Parce qu'on peut être choisi simplement par intérêt, pour ce que l'on est, ce qu'on sait faire, etc. Mais si on est choisi et que l'on sait qu'on est choisi parce qu'on est aimé. Dans le carnet de chant, là où je travaillais, on chantait tous les matins lors du regroupement. Il y avait un chant qui vient de l'Église catholique et qui dit ceci. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. En 25 ans, j'ai dû chanter ce chant des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Mais quand je voyais le visage de ces femmes qui étaient là, certaines avaient du mal à chanter cette dernière phrase de la strophe. Aimer et se savoir aimer. Pourquoi Dieu m'a-t-il désiré ? Parce qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que je puisse croire en lui et que j'aie la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi ? Parce qu'il m'aime. Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi ? Parce qu'il t'aime. Et si tu n'es pas certain de cela, alors rentre dans ta chambre. Place-toi devant lui et demande-lui de te révéler son amour. Parce que son amour est éminemment un acte qui découle du fait qu'il t'a choisi, qu'il t'a voulu et qu'il t'aime. Et pour cela, il a été prêt à aller jusqu'à la croix. Cela, c'est le message de l'Évangile. Pourquoi Dieu m'aime ? Parce qu'il a un amour, un amour paternel et maternel. C'est difficile d'imaginer que Dieu a un amour maternel. Moi, quand je suis arrivé et que j'ai entendu l'Évangile pour la première fois, je voyais le dessin majestueux de la chapelle Sixtine avec le Dieu, le bras étendu, avec son doigt qui touchait le doigt d'Adam au moment de la création. Et on le voit avec une chevelure grise flottant dans le vent, une barbe. Va-t'en voir ta maman là-dedans. Un amour maternel. Il y a de la puissance, de la gloire, quelque chose de fort. Mais où est l'amour maternel de Dieu ? Eh bien, dans l'Exode, au chapitre 34, verset 6, il est dit que le Seigneur passa devant lui en proclamant « le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté ». Dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 31, « Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu compatissant, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères et à toi-même. » Et ce matin, on a entendu cela. On a dit, voilà, on a entendu que « Je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, parce que mon amour est sur toi. » Et vous savez quand En hébreu, on vient de dire deux versets, Exode 34, 6 et Deutéronome 4, 31. Dieu est un Dieu compatissant. C'est plus un mot qu'on utilise, être compatissant. Mais en hébreu, ce mot compatissant, c'est le mot réem. Réem, être compatissant. Et le réem, en hébreu, c'est le mot d'un organe du corps. Lequel ? Le cœur. Le cœur ? Pas du tout. Quel organe ? Je n'ai pas entendu. Le rein ? Pas du tout. J'entends mal, il faut le dire plus fort. Non. Oula ! Drôle d'image. Non. Oui. Le réem en hébreu, c'est la matrice, c'est l'utérus. Dieu est un Dieu qui porte, comme une mère porte son enfant avec sa matrice. C'est cela la compassion. Être compatissant, c'est un Dieu qui porte son enfant comme une femme porte son enfant. Est-ce que vous arrivez à imaginer un amour, une fusion d'amour plus forte que cela? Moi, j'ai découvert cette semaine des mystères sur la matrice et l'utérus, avec la naissance d'Emmanuel. Comme Emmanuel est né J plus 6, et puis que Francine devait y assister, elle m'a expliqué qu'à un moment donné, pour accélérer les choses, ils ont percé la poche des os. Et je dis, ben alors il va venir, il doit venir dans les minutes qui viennent. Oh ben non, peut-être demain, après-demain. Je dis, mais attends, le bébé, ça fait 9 mois qu'il est dans l'eau. Moi, je pensais que s'il n'y avait plus d'eau, le bébé... Non, un bébé, ça peut vivre intra-utérin sans que l'eau soit là. Mais n'empêche que cette matrice protège, nourrit, alimente en oxygène et en aliments l'enfant qui est protégé. Voilà l'image que Dieu donne quand il dit « Ton Dieu est un Dieu compatissant et clément. Ton Dieu est un Dieu compatissant pour toi. Il est là parce qu'il t'aime. Il veut t'entourer de son amour. » L'amour n'est pas, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, l'amour, ce n'est pas une affaire de sentiment. Seulement. Alors évidemment, tous les petits jeunes disent « Ah oui, c'est quand le cœur, il bat fort, donc là, il y a de l'amour !» Non, c'est pas l'amour, c'est pas que une affaire de sentiment, c'est aussi une affaire de volonté, de désir, d'envie. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que cet amour-là de Dieu pour moi est à la fois une affaire de sentiment, mais aussi de pensée, de volonté de Dieu. Dieu, c'est pas même Dieu, je dirais même plus, il veut m'aimer de toute éternité. Cantique des Cantiques, c'est certainement le livre qui parle le plus de l'amour de Dieu pour son peuple. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 7, « Révèle-moi, toi que mon cœur aime. » Révèle-moi. Moi, j'aime bien cette formule. Révèle-moi, c'est-à-dire révèle-moi à moi, c'est-à-dire alimente en moi ce qui doit naître, ce qui doit se développer. Révèle-moi. C'est un peu comme une photo. Vous savez, j'ai fait de la photo au collège biblique. Je n'avais jamais fait, j'ai trouvé ça génial. On prend une photo, on met le négatif après l'avoir développé sur un appareil, on le projette sur un papier sensible. Ensuite, on plonge ça dans un bain. Et alors là, moi, j'étais fasciné. Et tout à coup, ce papier blanc révèle une scène, une personne. Il révèle, il fait apparaître. Et ce que Dieu veut faire, c'est dans le Cantique des Cantiques, révèle-moi, toi que mon cœur aime, révèle-moi. C'est-à-dire, quelque part, c'est à la fois révèle-moi qui tu es, toi que mon cœur aime, mais révèle-moi aussi à moi-même où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons? C'est-à-dire que je veux être à tes côtés. Mets en évidence, révèle-moi. Ce n'est pas seulement le monde qu'il s'agit de changer, c'est l'homme. D'où surgira-t-il cet homme neuf ou cette femme neuve? D'où surgira-t-il? De l'intérieur de moi et de l'action du Saint-Esprit qui me révèle ce que je suis dans la pensée de Dieu. Le troisième pilier, je terminerai avec celui-ci rapidement, mais qui est aussi important. Être désiré, à savoir qu'on est désiré, savoir qu'on est aimé. Le troisième, c'est savoir qu'on a de la valeur. Ainsi parle maintenant l'Éternel, Ésaïe 43, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux. Du fait que tu es honoré. Et que je t'aime. Combien de fois le Seigneur doit-il nous le dire pour qu'on en soit convaincu? Tu as dit quoi, Seigneur? Je t'aime. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Je t'aime. Il y a des hommes et des femmes qui passent leur vie à être sourds aux cris et aux paroles d'amour de leur Dieu. Et arrivés à la fin, ils disent, mais je ne l'ai pas entendu, il me disait quoi ?
Ouais.
Du fait que tu es honoré et que je t'aime. Être honoré, c'est estimer que tu as de la valeur. Est-ce que tu crois que tu as de la valeur ce matin aux yeux de Dieu ? J'utilise souvent cette image. La valeur de quelque chose, on le reconnaît à son prix. Il y a une émission de temps en temps qu'on suit quand on a un moment, c'est l'émission Affaires conclues. Il y a des gens qui viennent, alors ils donnent des choses, des objets, et puis c'est estimé par des professionnels, et ils repartent avec une roue de charrette à 10 euros. Bon, ok. Puis parfois, il y a des objets, je me rappelle d'un petit vase comme ça qui faisait 8 cm. Mise à prix. Juste avant, ça veut dire, oh, si ça fait 150 euros, c'est pas mal. Et les experts se sont battus pour ce petit vase. Un petit vase galé d'une entreprise d'Alsace, je crois. Hein, galé, non ? Ou Dôme. 100 euros, 150, 200, 500, 800, 1000, 1100, 1500, 2000, 2500. L'objet est parti à plus de 3000 euros. Et il y avait le vendeur qui était là. Ah oui, quand même ! Et il y a une... quelqu'un qui avait vendu un objet comme ça, et le professionnel dit, alors, c'est un objet pour lequel vous n'ayez pas d'attachement particulier. Ah ben non, vous y teniez pas plus que ça. Ah non, et maintenant que vous avez pour une valeur de 4000 euros, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, je l'aime beaucoup plus. Parfois, le regard que nous portons sur nous-mêmes, l'estimation que nous avons, passe outre l'estimation de Dieu sur nous. Et il me dit, tu as du prix, je donnerai l'Égypte pour toi, l'Éthiopie, l'entreprise d'Elon Musk, tout, je donnerai tout pour toi, parce que tu as du prix et parce que je t'aime. Alors, je voudrais juste terminer avec ce sentir aimé, c'est un psychologue que j'aime beaucoup, Jacques Lecomte, qui dit, se sentir aimé permet de donner un sens à son passé et une direction à son avenir. Je le redis parce que c'est aussi ce que Dieu veut nous apprendre. Se sentir aimé permet de donner un sens à son passé et une direction à son avenir. Et il disait ça dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Donner un sens à sa vie ». Alors, il n'est pas chrétien, c'est de la psychologie, hein, mais je trouve que ça parle bien de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu... Être conscient de son amour, ça donne un sens à mon passé et une direction à mon avenir. Seigneur, merci de faire souffler ton esprit sur nos vies maintenant, afin qu'il révèle au plus profond de notre être, de notre cœur, que nous sommes choisis et voulus par toi. Maintenant, Seigneur, tu vois, celui, celle qui peut avoir ce sentiment d'être laissé pour compte, d'avoir été laissé pour compte. Tu vois les blessures, les meurtrissures, les doutes, les craintes, les peurs qui naissent de ce sentiment. Fais souffler ton esprit pour que nous ayons la juste mesure du fait que tu nous as voulu, tu nous as désiré. Donne-nous cette lumière sur le fait que ton amour est sur chacun d'entre nous, tel que nous sommes, quels que soient nos parcours. Donne-nous, là aussi, d'avoir cette révélation que nous sommes la prunelle de tes yeux, le battement de ton cœur. Et parfois les larmes de tes yeux quand nous l'oublions. Amen.